français entre les poteaux. Christophe Cessieux.
Salut à tous, un match dingue, du spectacle, du suspense et pour finir la qualif du Stade Toulousain pour une finale de rêve dans 3 semaines à Londres face à son meilleur ennemi. On pouvait difficilement rêver plus beau scénario que celui offert par les champions de France et leurs adversaires anglais hier en demi-finale de Champions Cup. Un match que nous allons débriefer aujourd'hui entre les poteaux en étudiant à la loupe ce qui a fonctionné à la perfection, notamment cette première mi-temps de rêve offerte par les Toulousains et les points à améliorer comme ce trou d'air en début de deuxième mi-temps qui aurait pu être fatidique. 15 minutes de doute qu'il faudra éviter de reproduire pour espérer mettre fin à une longue série noire face au Leinster. Pour évoquer cette fin de compétition intercontinentale, les poteaux seront composés aujourd'hui de Winnie Claret, Wilfried Templier et Nicolas Paolorsi. Salut les garçons et surtout la fille.
Hello, hello.
Salut.
Salut Christophe.
Ravi de vous retrouver les poteaux, ça fait quelques semaines que j'étais plus
avec
vous.
Oui, mais ouais, c'est vrai, c'est vraiment
ce que t'es passé. C'est ça, ouais, ça doit être ça, là, dit-il. Ah, oui. Bon, en tout cas, voilà, je suis de retour évidemment pour les grandes occasions, je laisse les petites occasions aux remplaçants.
Ah, d'accord. D'accord, ok.
Voilà, en tout cas, on s'est régalé avec cette demi-finale. Il y a tout eu dans ce match, de quoi emballer un trio de commentateurs sous le charme.
Superbe. Le ballon qui ressort avec la passe de Moubacar, la santé en
c'est
le
seul.
Magnifique travail de Moubaka.
Ok. Oh, les exclamants. Oh là là, l'interception. Oh, ils ont joué avec le feu derrière le Queen. S'ils se font punir. Et tant mieux pour le Stade Toulousain. Il est arrêté.
Et
L'essai d'Antoine Dupont, le doublé.
Pour Pitaki qui joue dans son dos avec Antamak.
Oh, magnifique.
Le passe pour Ramos. Sur les extérieurs pour Malia. Le retour intérieur de Malia. L'essai du Stade Toulousain.
Il l'a récupéré, et c'est sorti, et c'est fini. Voilà, Toulouse qualifié pour la finale de Champions Cup.
Je noterai quand même que Julien Landry a piqué 2 essais à Wilfried Templier. Ça, c'est un crime de lèse-majesté qui ne passera pas.
Et aussi que Yann Delegue a fait une petite charvette igno.
Ah ouais,
petit sur le premier essai. Il a dit essai avant que.
Avant qu'il essaie.
Ah, ouais, ouais. Ça m'avait échappé, ça, et voilà.
Eh ben oui,
ça va être contagieux, ces anciens joueurs là.
Ces anciens joueurs du Stade Toulousain en plus évidemment. Alors Wilfried, t'étais au micro hier, on l'a compris.
Ouais, et quand je rentre en ambiance comme ça là,
il y avait une ambiance de folie. Hein.
Mais au début, on vous écoutait et on entendait plus le stade qu'on vous entendait vous. C'était impressionnant.
Bon, je crois que c'est un problème de micro mal réglé.
Mais d'accord.
En fait,
mais
c'est la régie.
Non. C'était incroyable. Combien d'années Wilfried que on n'avait pas connu des demi-finales au Stadium?
14.
Ouais, 14
demi-finale, la dernière, c'était Toulouse-Leinster en 2010, avec un essai de David Skrela sous la pluie, et ils avaient battu Biarritz en finale ensuite au Stade de France. Donc ouais. 14 ans, il y avait eu des matchs au Stadium évidemment, mais jamais une demi-finale de Coupe d'Europe, Champions Cup, H-Cup, comme vous voulez.
Alors, Yann Delegue, on en parlait à tes côtés, qui disait à la fin du match n'avoir jamais assisté à un match aussi emballant. Il est peut-être un peu dans l'euphorie de la victoire, mais c'est vrai qu'on s'est quand même régalé comme rarement, peut-être pas jamais, mais rarement, Wilfried. Hein. Franchement, cette première mi-temps, c'est incroyable.
On le disait, à la mi-temps, c'est un score final, quoi, 31-12. 5 essais toulousains, mais surtout, ça répond en face. Parce que on s'est dit d'entrée, ils vont les assommer. Mais cette équipe d'Harlequin, c'est admirable. On en reparlera, elle a fait des erreurs fatales dans un match comme ça. Ils peuvent avoir des regrets aussi. Mais Toulouse, quand la machine se met en route et quand en face, le jeu est si ouvert, et on a vu de très, très, très beaux essais. Le premier de Lebel, c'est fantastique. Le ballon libéré par Meafou dans le ballon porté. La sautée laser d'Entamac pour Lebel. Et avant, c'est Moubacar qui relève un ballon un peu comme à la Magic Johnson, un peu presque sans regarder dans son dos. C'était du très très haut niveau. Et le suspense de la deuxième mi-temps, franchement, voilà, le public, l'ambiance, c'était un très très grand rendez-vous.
Ouais. Même pour le Bordelais, Nicolas Paolorsi s'est régalé avec les Toulousains.
Oh, il n'est pas habitué à
tout ça. Des fois, faut s'incliner. Hein. Non, mais il faut savoir s'incliner. Franchement, il faut savoir perdre avec les honneurs. Non, mais c'était un.
Le quart final, Nico, était beau aussi entre l'UBB.
Incroyable.
Très difficile pour l'UBB, mais beau aussi.
Mais trois équipes qui se ressemblent, hein, Toulouse, les Harlequins et l'UBB dans la philosophie de jeu, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé fort sur cette demi-finale, c'est que t'as aucune des deux équipes qui s'est reniée. On l'attendait, ce format de jeu avec deux équipes qui allaient envoyer du jeu dans tous les sens. Et les Harlequins sont répandus, ils sont restés fidèles à ce qu'ils font depuis le début de saison. Pareil pour Toulouse. Faudra certainement jouer différemment en finale, mais c'est ça qui était beau. Et à ce petit jeu-là, quand tu veux envoyer du jeu dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup plus fort que Toulouse en Europe, hein, et dans le monde même.
Évidemment. Alors, on a beau critiquer, Winnie, le fonctionnement de cette Champions Cup, hein, c'est vrai. Ouais.
Avec des phases de poule qui ne veulent pas dire grand-chose.
Mode de qualif un peu archaïque, les déplacements à l'autre bout du monde, évidemment, ce n'est pas très dans l'air du temps, tout ça. Mais c'est vrai qu'en vient l'heure des phases finales, c'est un régal et ça nous change des matchs du top 14. Je ne dis pas que c'est pourri, les matchs du top 14, parce qu'il y a de la tension, il y a évidemment des enjeux. Des enjeux, mais oui, mais au niveau du jeu, c'est pas la même chose. C'est sûr.
Non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que cette saison en particulier, et vous l'évoquiez, hein, messieurs, juste avant, les quarts de finale de cette année, ça a été spectaculaire. Chaque quart a été hyper disputé. Ouais, c'était les plus prolifiques. 43 essais inscrits en quart de finale sur toutes les affiches. D'ailleurs, Toulouse y a bien participé parce qu'ils en ont quand même mis 9, hein, à Exeter. Et on a eu des matchs. Alors, celui de Bordeaux, je pense que c'était le plus étincelant face aux Harlequins en quart de finale. Avec la transformation manquée au bout du bout par Maxime Lucu. La petite victoire d'un point au bout de ce match complètement dingo des Harlequins qui, du coup, se sont finalement inclinés à Toulouse ce week-end. Mais effectivement, on a vu des phases finales qui rattrapent tout ce qu'on a pu dire sur cette phase de poule où on a quand même, messieurs, un écart énorme entre un Toulouse tout en haut de l'affiche au bout des phases de poule et un Racing ou même un Stade français qui, clairement, il n'y avait pas match en fait dans leur poule.
Mais sur le jeu, je pense que les Anglais aident à ça parce qu'ils ont des phases. Contrairement à nous, ils ont des phases finales comme ça dans leur championnat. Où il y a des 40, 30, 35, où il y a énormément
ça joue,
de jeux. Nous, c'est quand même beaucoup plus fermé en top 14 quand on arrive dans les moments décisifs. Mais là, tu parlais des quarts de finale. Toulouse-Exeter 64-26, UBB Harlequins 41-42, Northampton Bulls 59-22 et Leinster La Rochelle 40-13.
Ouais. 307 points inscrits au total.
On arrive en demi-finale. Tu as raison, Christophe, c'est un autre niveau. C'est vraiment, au-dessus du top 14, on va dire. Et on l'a vu hier, hein, que ce soit techniquement, dans le suspense, dans l'intensité. Il y a un peu plus de volume. On a cette sensation-là. Et c'est la vérité, je pense qu'il y a plus de volume dans ces phases finales.
Donc finalement, c'est bien quand les Anglais sont dans le dernier carré, visiblement.
Oui, mais c'est bien quand ils restent aussi.
mais qu'on les tape à un moment, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, qu'on finit par les taper. Ça, c'est toujours bien. On en parlera tout à l'heure. On va revenir sur ce match donc, qui a débuté sur les chapeaux de roue avec un premier essai toulousain dès la 5e minute. La réponse anglaise quelques instants plus tard. Et les baffes ont continué de pleuvoir aux quatre coins du terrain avec pas moins de 7 essais inscrits en première mi-temps, dont 5 pour les Toulousains, qui ont globalement parfaitement maîtrisé cette première mi-temps. Bon, ils ont pris quand même 2 essais. C'était du grand Stade toulousain et pas seulement dans la conclusion, mais également dans ce que Jean-Baptiste Elissal disait dans l'équipe ce matin. Il l'appelait les petits combats. Ces contre-rucks diablement efficaces qui ont fait la différence. Et c'est vrai que c'est aussi l'une des marques de fabrique du Stade toulousain, c'est de s'attaquer au point fort de son adversaire pour le faire déjouer. Et là, ça a été parfaitement le cas, Wilfried, hier.
Bah oui, parce que la machine Harlequins, Winnie, tu les avais vus contre le Racing.
Contre le Racing, ouais, à l'Arena.
Déjà le Racing menait 28-16 et avait perdu 31-28. Et cette équipe anglaise, cette machine à jouer. Bon, elle est comme toutes les autres, hein. Si elle met du temps à sortir le ballon, si tu vas. Et ça arrive des fois aux Toulousains. D'ailleurs, Nico l'UBB l'a fait à Toulouse lors du dernier match au Matmut, c'est-à-dire de batailler sur tous les rocs. Mais je trouve que alors ils l'ont très bien fait, mais que les Harlequins, quand je dis, ils se suicident un peu en première mi-temps parce que ils se font voler. On va revenir sur ces jeux au sol, mais ils se font voler une touche. Il y a essai derrière. Et puis sur les deux derniers essais, c'est eux qui ont une touche dans les 22 mètres du Stade toulousain. Elle est trop longue. Il la joue derrière. Ils prennent un contre de 80 mètres. Et puis contre-rock. Non, celui d'avant, les deux essais du pont, il y a un contre-rock aussi. Donc oui, Toulouse avait ciblé ses rocks. Et il n'y a pas eu un rock facile pour eux. Avec un énorme François Cross là-dessus, mais les trois quarts, hein, même acquis, même Dupont a fait un turnover à un moment. On reparlera de Dupont aussi. Que...
Ouais, 16 turnovers concédés par les Harlequins face à Toulouse.
Donc oui, c'était le grain de sable à mettre dans la machine d'Harlequins.
Avec souvent, Nico, t'as vu, ils font les contre-rucks où ils essayent de récupérer les ballons sur les extérieurs dans les couloirs. Ouais. Parce que si ça marche pas, bah pour défendre, c'est plus facile, t'as qu'un côté à défendre. Alors que si tu fais au milieu du terrain, c'est plus compliqué. Hein.
Et je pense qu'ils essayent aussi d'isoler certains ouais. joueurs pour pouvoir aller contre-rucker plus facilement. Et c'est vrai que stratégiquement, ça a été très bien vu. De toute manière, cette équipe toulousaine, en fait, quand tu regardes déjà le 5 de devant, c'est ultra complet, c'est très très fort en conquête. Ça joue parfaitement bien, c'est capable d'aller contester, t'as plein de joueurs qui sont capables d'aller contester n'importe quel ballon au sol, et d'ailleurs en début de deuxième mi-temps quand ils sont dans le dur c'est là que ça joue, c'est que justement ils perdent un petit peu cette bataille au sol, tu les sens un peu frustrés et donc du coup j'ai l'impression qu'ils veulent encore plus surjouer alors qu'ils commencent à délaisser un petit peu le jeu au sol, à être moins dominant là-dedans, donc ça surjoue un petit peu plutôt que d'alterner, ils se précipitent un petit peu et c'est ça qui fait qu'ils perdent un petit peu le fil, donc probablement que pour ce qui va suivre après faudra alterner un petit peu plus que ce qu'ils ont fait contre les Queens, mais sinon franchement là t'es vraiment sur des détails. François Kroos il fait un match mais monumental, ouais. Mais on n'arrête pas de le dire, que ce soit avec le 15 de France ou à Toulouse, mais il est encore à quoi, plus de 20 plaquages sur le match ou une vingtaine de plaquages, c'est fabuleux.
Ouais. 20 plaquages, ouais.
Il est énorme, effectivement. Bref, on l'a compris, Toulouse a vécu 40 minutes de grâce, facilité aussi par ce que tu disais, Wilfried, quelques erreurs quand même des Harlequins.
Ouais, mais ils peuvent le regretter, hein, parce que les flamands interceptions, il y a le contre-rock de. Il y a Malia, il y a Movaca dedans, il y a. Voilà. Et puis, je sais pas, moi, j'ai trouvé, ce fond de touche, là, quand il y a le contre de 80 mètres, le coup de pied de Paul Coste, j'ai trouvé ça un peu cavalier. Il y a du vent, et ils prennent 21-0 en 10 minutes, oui, 10 grosses minutes avant la mi-temps.
Ouais, parce qu'ils sont à touche-touche, hein, à deux essais chacun, après quoi, ouais. une trentaine de minutes, enfin, 25 minutes.
Ouais, il y a 12-12 à ce moment-là. 12, ouais.
Et derrière, effectivement, ça craque. Toulouse a vécu 40 minutes de grâce qui ont inspiré ces quelques mois à Antoine Dupont. Quand on se jette les ballons, ça finit toujours dans les mains de quelqu'un et on va derrière la ligne. C'est un sentiment hyper agréable. C'est vrai qu'on a l'impression que rien ne pouvait leur arriver. Quelque chose qu'on arrive à toucher du bout des doigts par moment et qu'il faudrait qu'on arrive à maîtriser un peu plus, forcément, parce que derrière, il y a eu la deuxième mi-temps.
C'est typiquement le jeu toulousain où on se demande à un moment comment ça se fait qu'à un moment on aille au bout, parce qu'au début, quand on regarde parfois la construction des essais, les mecs sont tellement décomplexés, en fait, qu'on peut faire un offload raté, laisser le ballon rouler, ça part pas bien, mais en fait, à la fin, il y a quelqu'un qui finit par le rattraper, qui fait la petite passe qu'il faut, et on y va. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que hier, il y avait un tournoi de rugby à 7 à Singapour, et les bleus, les féminines sont reparties avec la médaille de bronze, et leur sélectionneur a fait un clin d'œil au stade toulousain, quand on leur parlait un peu de la différence entre des nations comme les néo-zélandaises et les australiennes, qui sont hyper huilées, qui font des très belles passes. Nous, c'est beaucoup les offloads un peu à la Oura rugby, mais c'est efficace. Et bien, il disait justement, chacun sa culture, chacun son identité. Le stade toulousain fait des essais magnifiques, mais il passe par des passes ratées, des ballons qui roulent avant d'aller à plâture. Et justement, c'est des choix qu'on fait, et parce qu'au bout, on sait qu'on peut aller gagner. Donc, même à Singapour, il y a eu un clin d'œil pour le stade toulousain.
Inspire le rugby à 7.
Et inspire
féminin.
L'ancien troisième ligne Auvergnat, David Courtex, évidemment.
Après, quand t'as Movaca et Meafou, quand même, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire avec leurs mains, au poste qu'ils occupent.
C'est une chance de dingue d'avoir des avants comme ça, en fait.
Mais à fou, je crois que c'est 2-3 premiers ballons. À chaque fois, c'est offload. Et d'ailleurs, je crois que sur son deuxième ballon, c'est ce qui amène le premier essai toulousain. À chaque fois, il arrive à sortir les bras, quoi.
Nico, c'est le deuxième au classement. Avant le match, le premier joueur qui fait le plus de passes après contact, c'était Antoine Dupont en Coupe d'Europe, 19. Mm. Et le deuxième, c'était Meafou, deuxième ligne. Donc, sur toute la Coupe d'Europe. Donc, voilà, on en a parlé hier, c'est la diff qu'il fait aussi. Il est ultra puissant, mais il fait jouer derrière lui.
Ouais, il a des mains.
Il a des mains, ça peut aider pour jouer.
Non, mais tu vois, par rapport à un Skelton, c'est quand même différent. C'est-à-dire que Skelton, c'est une machine à concasser à un 5 de devant, mais tu le trouves beaucoup moins dans le jeu. Là, mais à fou, il a des mains incroyables, quoi.
C'est vrai qu'il y a une différence quand même entre les deux. On les compare souvent, mais à la force brute, mais à fou.
Ils ont le gabarit, ils n'ont pas le même style de jeu.
Non, pas tout à fait, exactement. Alors, on va quand même aborder les choses qui fâchent, parce que la deuxième mi-temps a été plus compliquée pour le stade toulousain. Ça n'a pas du tout été les mêmes mayonnaises. Ils menaient 31-12 à la mi-temps et ils ont vu leurs adversaires revenir dans le rétro grâce à deux essais inscrits en quelques minutes. On les a sentis, je ne sais pas, moi, mais un peu perdus sur le terrain. Nicolas en parlait tout à l'heure, au niveau stratégie, comme s'ils ne savaient plus quoi faire, garder le ballon, le rendre à l'adversaire. On va écouter l'analyse d'Hugo Mollin et ensuite on en débat.
Je crois qu'on a maîtrisé dans l'ensemble notre première mi-temps. Et après, le retour de vestiaire est un peu délicat pour nous. On subit pas mal de situations offensives. On ne met plus la main sur le ballon. Il y a quelques sorties de camp qui redonnent des ballons assez faciles. Quelques plaquages manqués alors qu'on n'a pas forcément de gros dangers. Et derrière, ça remet une dynamique positive aux Harlequins. Et derrière, ça leur permet de revenir dans le match, clairement. Et je crois que le contest de Dorian Aldeguerri autour de la 60e minute est plus qu'important à ce moment-là, parce qu'on est à un essai d'avance et ça leur permet quand même... On arrive à se sortir de cette situation-là. Derrière, il y a le carton jaune sur Antoine qui finit un petit peu de les mettre à mal en perdant leur talonneur, qui est un des meilleurs contesteurs de leur équipe. Et du coup, on arrive à remettre un peu la main sur le ballon. Mais c'est une seconde mi-temps quand même qui est pas forcément maîtrisée, mais qui est aussi... dû à la qualité de l'équipe adverse.
Voilà, alors avant d'évoquer la fin de match, et notamment ce carton jaune infligé à Walker, comment vous expliquez ce début de deuxième mi-temps, des Toulousains qu'on sent un peu perdus, la charnière qui grince un peu plus qu'elle, alors qu'en première mi-temps, c'était très, très bien huilé. Wilfried, tu étais sur place, comment tu as ressenti le truc ?
Bah, les Rocks se sont inversés, la dynamique dans les Rocks se sont inversés. Je pense que les Harlequins, à la mi-temps, ils sont pas bêtes. Ils ont bien vu qu'il fallait qu'ils remettent la main sur la balle, mais surtout qu'ils soient meilleurs dans la conservation. Et donc, qu'ils soient plus efficaces sur les nettoyages et les Toulousains. Peut-être qu'en menant 31-12 aussi inconsciemment, quand on revient en début de deuxième mi-temps, ouais, il y a un peu d'observation. Et il l'a dit, Mola aussi, et Yann Delegue le disait pendant le match, ils n'ont pas trouvé certaines touches sur les sorties de camp et ça a favorisé la dynamique des Harlequins qui savent mettre la machine en route avec 10-15 temps de jeu. Et puis ils sont très bons aussi, ils ont le droit d'être bons en face, les Harlequins. Et donc ils ont marqué deux essais magnifiques avec des joueurs d'ailleurs qu'on connaît peu. C'est leur un peu leur caractéristique, hein, qui connaît vraiment Tyrone Green, l'arrière sud-africain qui est monstrueux, ou l'ailier Kaden Merley, avec des joueurs comme Esther Huizen qui a déménagé au milieu du terrain. Cunningham South, le troisième ligne qui a fêté ses premières sélections avec l'Angleterre.
Et le petit 10, il est pas mal
avec
aussi.
Avec
Selox. Le petit 10.
Smith aussi.
Un petit
évidemment.
Marcus, là, le petit Marcus.
Et Marcus Smith dans un jeu comme ça. Et bien voilà, les Toulousains avaient plus d'air. 31-26. C'est vrai qu'ils ont raison de parler de ce contest d'Aldeguerri. Et puis après, il y a eu le carton jaune. Parce qu'à 31-26, il y avait moins de bruit dans le stade.
Ah, oui, oui,
on sentait que ça avait tourné. Et là, on jetait un peu la pièce en l'air.
Bah oui, Nico, parce qu'on a connu ça. Enfin, tu as connu ça avec l'UBB il y a quelques semaines. La remontada des Queens. Ils savent faire. Hein. Ils sont jamais désespérés, en fait.
Ben ouais, mais ils jouent de la première à la 80e en fait. Mais chaque ballon, et tu le vois d'ailleurs, hein, même quand il y a 38-26 alors qu'il n'y a plus grand chose à aller chercher, Green relance. Donc voilà, c'est vraiment leur philosophie. Et c'est vrai que tu te disais, en fait, moi, j'ai trouvé que Toulouse a vraiment manqué d'alternance à ce moment-là du match. C'est que oui, ok, t'es dans ton projet de jeu, c'est de jouer tous les ballons. Et bon, bah, ils ont réussi à franchir, ils étaient dominants devant. Donc voilà. Mais quand tu commences à perdre la bataille du sol, la bataille des rucks, ben faut peut-être utiliser un petit peu plus le pied, comme disait Wilfried.
Oui, mais alors il y a aussi le phénomène du vent aussi. C'est qu'il y avait beaucoup de vent et on se rend compte que l'équipe qui avait le vent dans le dos a été un peu pénalisée, alors qu'on pourrait penser le contraire. Mais ils ne savaient pas, parce que le vent poussait tellement que les ballons avaient tendance à aller trop loin, quoi, en quelque sorte.
C'est vrai, ils ont mal géré certaines sorties de camp et ça leur fait mal. Donc, ce qui est aussi une des grosses données de ce match-là et ce qu'il faut en ressortir, c'est que maintenant, Toulouse, avec l'expérience, beaucoup d'équipes pourraient plus s'effondrer. Tu mènes 31-12 à la mi-temps, tu es largement devant, tu fais une première mi-temps incroyable, tu peux te dire que tu vas te les friser en deuxième. C'est pas du tout ce qui s'est passé, et malgré la remontée des Queens, la mentalité toulousaine, leur savoir-faire, leur capacité à savoir gagner des matchs, ça panique pas, il y a un sang-froid terrible, et ça fait que tu vas gratter un petit ballon à la 60e. Dès que tu as une supériorité numérique, tu arrives à assassiner les Queens derrière. Donc voilà, ils savent gagner ces matchs-là maintenant, les Toulousains.
Ils ont été aidés par le talonneur adverse.
Oui. Ah oui. Alors, est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, c'est le moment décisif de ce match, le momentum avec l'expulsion pour 10 minutes de Walker, pour ce déblayage à la figure d'Antoine Dupont? Certains nous disent, d'après les études de la Fédération française de rugby, que quand il y a un garçon qui est expulsé, ça change pas grand chose.
Ça renverse pas totalement la table, effectivement. Non mais parce que effectivement, on pouvait se demander. Non mais pour revenir déjà sur ce qui s'est passé hier, oui, j'ai fait une thèse effectivement.
rapide
mais oui, parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on fait à RMC, on est rapide et efficace. Pour revenir sur ce qui s'est passé hier sur le terrain du stadium municipal, on se demande même si il aurait pas fallu sortir un carton un petit peu plus corsé que le jaune, messieurs. Ah, on a vu les mêmes images. Il me semble quand même qu'il charge avec son épaule le visage directement d'Antoine Dupont.
Est-ce que le atténuante, est-ce que Dupont s'est baissé? Je l'avais pas dans l'oreille, l'arbitre, mais il a dû trouver.
Non, mais sur les images, on peut se demander effectivement, est-ce que Dupont il s'est suffisamment baissé, ou au contraire, est-ce qu'il n'était pas dans un mouvement où il était en train de se relever? On ne sait pas trop.
Non, mais s'il met rouge, il n'y a pas scandale, hein.
Mais il y a pas. Non, mais c'est surtout qu'en fait, la finalité, normalement, c'est encore une fois de protéger le joueur. S'il finit par se le prendre dans la tête, c'est qu'il y a contact avec la tête de l'épaule, donc en fait, normalement, c'est rouge. Et justement, c'est marrant parce qu'on parle du carton rouge de 20 minutes en ce moment, c'est-à-dire de remplacer la personne exclue définitivement par un autre pour qu'on ne soit jamais en impérié.
Au bout de 20 minutes. Attention, pas tout de suite quand même.
Pour que l'équipe pénalisée ne finisse pas en infériorité numérique.
Là, c'était la 67e, donc ça changeait
à 3 minutes près. Toujours est-il que ce débat-là...
Mais t'as raison, c'est une histoire aussi de politique en ce moment, quoi, de sécurité du joueur.
Bah voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on décide de mettre en priorité? Est-ce que c'est la sécurité du joueur ou est-ce que c'est le scénario d'un match, et donc un petit peu aussi le côté spectacle, l'intérêt qu'on peut avoir niveau public?
C'est la question que Christophe va nous poser normalement.
Bah oui, non mais c'est parce qu'on a déjà débattu un peu dans les grandes gueules du sport. Moi je voulais avoir votre avis.
Et d'ailleurs il était seul contre tous.
Oui, non mais bon, j'ai pris une position un peu provocatrice parce que tout le monde était
d'accord. Ah, ça t'arrive.
Non, pas du tout.
Non.
non mais c'est vrai, ça tue quand même quelque part. Le suspense, le spectacle quand t'as un garçon qui est expulsé. Oui, je sais, mais est-ce qu'il y a pas d'autres moyens?
À
ce moment-là il faut changer de sport, quoi.
Alors justement, intéressant. Ce matin on est allé voir Laurent Travers, le président du Racing 92, qui a quand même lui roulé sa bosse au bord des terrains après avoir même joué. Lui, ce qu'il nous disait, c'est: mais avant même de reparler de modifier la règle du carton rouge, pourquoi on va pas généraliser le bunker, notamment en top 14 et en Coupe d'Europe? Et lui, ce qu'il aimerait,
c'est qu'avant d'inventer de nouvelles règles autour
du carton rouge, ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on a vu à la Coupe du Monde, qu'on a vu aux Six Nations, mais mettons-les dans nos championnats, dans nos Coupes d'Europe. Et peut-être que là, ça nous aurait permis de visionner pendant 8 minutes les images, et on aurait dit, peut-être que ça mérite un rouge.
Mais Winnie, après la Coupe du Monde, les supporters disaient: ouais, mais c'est les gens dans le bunker, ils sont moins bons que les arbitres, ceux qui prennent des décisions, ils prennent pas les bonnes.
Oui, on laisse trop entre les mains de l'arbitre vidéo la décision finale.
Bon, c'est vrai, le bunker peut être. Non, Christophe, surtout... c'est juste. Ça fait des années qu'on essaye de parler de protection du joueur.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi.
Un bon signal, quoi.
Est-ce que t'as pas moyen de punir plus sérieusement un joueur, justement le joueur fautif, en mettant des sanctions plus sévères, en l'empêchant de jouer pendant un mois, deux mois, trois mois, en fonction de la blessure ou même de qu'il inflige à son adversaire, mais sans pénaliser forcément
l'équipe. Ça dépend quelle est la finalité. Et justement, le principe du carton rouge, c'est une sanction collective.
Après, est-ce qu'on a des...
Mais sinon, t'envoies des boulets de canon défoncer Antoine Dupont à chaque match avec un peu d'enjeu, tu sacrifies un joueur sur lequel tu vas pas compter pendant des mois, mais au moins ton équipe revient à 15 contre 15.
Non, mais on a des stats. Est-ce que à 14 contre 15, t'es quasiment assuré de perdre le match?
Justement, c'est ce que t'évoquais un peu, Christophe. La Fédération française de rugby, qui elle est vent debout contre le carton rouge de 20 minutes, a demandé à son département statistique de bosser sur environ 500 matchs internationaux et de top 14 pour voir justement quand une équipe se prend un carton rouge dans un match, si ça fait complètement basculer ou
est-ce
non
que
la
tu
rencontre.
Perds, quoi.
Ils disent qu'il y a un delta de 4,5 points, c'est-à-dire que si tu mènes par exemple tu te prends un carton rouge, tu menais de 10 points, à la fin tu vas quand même gagner, mais de 5 points environ. Ouais. Parce qu'en fait, donc ça renverse pas. C'est-à-dire que t'as une défaite à 60% des fois où tu te prends un carton rouge. C'est 60%.
Ça dépend du moment aussi où la sanction
arrive. Évidemment, après, il faut aller affiner.
Moi, je me rappelle d'un match qu'on avait vécu ensemble, Wilfried, un quart de finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande entre la France et le Pays de Galles, où Arberton, je crois, se fait expulser.
Vincent Clerc,
tout de suite dans le match, très rapidement. Et il joue pendant 70 minutes à 14 contre 15. Et on a très chaud aux fesses.
Et le Racing 92 en 2016 au Camp Nou qui voit voit à la demi-heure de jeu Maxime Macheneau sortir sur carton rouge.
Et qui est champion de France.
Et qui est champion de France derrière face à Toulon.
Ouais.
Donc alors, il y aura alors, toujours plein d'écarts.
Oui, alors là, je te posais la question dimanche également.
Sinon,
est-ce
on
que
fait
là...
un podcast pour en parler.
Voilà, c'est
mais
ça.
Non, mais c'est bien, sortons un peu de la tradition.
Oh là là, Wilfried,
c'est pour vanner.
Les chemins de traverse de temps en temps sont plus intéressants parfois, mon cher Wilfried, que l'autoroute. Mais de date, n'entendez pas
du tout. C'est un message que tu m'envoies.
Non, c'est un code.
Winnie, est-ce que la Fédé aussi a fait une étude sur le caractère
l'impact du carton rouge sur la baisse des plaquages dangereux.
Voilà.
Non, que... mais justement, on a posé la question à Jean-Marc Lhermé, le vice-président en charge des équipes de France à la Fédé, qui nous dit que c'est très difficile de quantifier et surtout de caractériser la sécurité sur un terrain. C'est-à-dire qu'on a tellement de cartons rouges différents en fonction d'une faute accidentelle, une faute technique, ouais. ou alors une agression pure et simple, une violence pure et simple sur le terrain, qu'on n'a pas de chiffres pour nous dire depuis qu'on a des cartons rouges, ça nous a permis de faire baisser de temps les plaquages dangereux ou
mais
les agressions.
Je ne suis pas sûr que ce soit le fait de mettre un rouge qui dissuade le joueur sur le terrain, et tu vois, ça c'est sûr, mais après c'est.
Après, il y a quand même des discours, je veux dire, les entraîneurs savent que s'ils perdent un joueur, c'est chaud et donc ils doivent avoir un discours auprès de leurs joueurs.
Non
de
mais bien
dire,
sûr
bon,
tu
gars,
sensibilises,
gaffe,
tu sensibilises ton équipe maintenant bien parce qu'il y a des nouvelles règles et que t'as pas envie d'être. Mais sur le terrain quand t'es joueur, je pense que tu vas pas. Ah tu t'apprends à plaquer différemment, mais tu baisses pas ton niveau d'engagement parce que voilà faut pas prendre de rouge. Moi je trouve que sportivement c'est la donnée elle est très simple. Il y a une règle à partir du moment où la protection du joueur est mise en danger, bim carton rouge. Voilà c'est comme
est-ce
ça. Hein,
est-ce qu'il y aurait pas justement, là aussi, moyen de faire évoluer les règles et peut-être d'interdire les plaquages au-dessus des jambes, quoi. C'est-à-dire plaquage aux jambes.
On va devenir des taupes, quoi.
Oui. Non, je sais pas.
Voilà, façon, c'est plus le même sport, je trouve.
Ouais, c'est déjà plus le même sport.
Mais
hein.
Non, mais déjà, essayons de faire respecter la limite des épaules et après, on parlera des hanches, quoi. Mais déjà, il faut. Mais ça, ça demande de voir les générations qui ont été éduquées avec ça et qui sortent des écoles de rugby et des centres de formation. Pour voir des générations qui vont avoir à qui on a inculqué ça en fait.
Mais c'est là où le bunker c'est bien parce que le bunker si jamais t'as un skeleton qui va plaquer un joueur d'1m70, et ben il y a peut-être des circonstances atténuantes qu'il faut prendre en compte parce que le joueur il est peut-être maladroit, mais c'est parce que physiquement au bout d'un moment t'as un tel décalage entre les deux joueurs que skeleton il peut pas aller chercher un gars d'1m70 peut-être aux jambes ou à la taille. Donc c'est là où le bunker et l'interprétation des images te permettent d'être nuancé et donc de transformer peut-être un carton rouge au départ en carton jaune ou inversement et c'est là où je trouve que c'est très bien.
Tu voulais faire un bunker du rouge au jaune aussi.
Non mais dans les deux sens,
mais
dans
moi,
les deux sens.
Proposer jaune, orange, rouge hein, comme une carte. Bon, on m'a dit
toujours
que
plus quoi.
Ça serait une usine à gaz.
C'est vrai que c'est si simple les règles au rugby déjà que.
Mais oui, mais plus
quoi.
C'est compliqué, plus on aime ça. Hein, voilà. On adore, on est un peu
zinzin.
On va revenir à notre match tout de même.
Mais parce que là on avait perdu Wilfried, il voulait pas participer. Il voulait plus participer.
Je vous écoute, j'attends.
Allez Toulouse.
Il est parti. Il attend, on parle de Toulouse.
C'est bon, c'est fini.
Bon, Wilfried, les Toulousains, en tous les cas, vont profiter de leur supériorité numérique pour inscrire leur seul essai en deuxième mi-temps, signé Malia, et s'est converti par Thomas Ramos, qui n'avait pas été aligné dans le 15 de départ, mais dont l'entrée à la place de Kinghorn a quand même fait la différence dans cet exercice-là, en tout cas. Hein. On se rend compte qu'à ce niveau de performance, qu'à ce niveau de jeu, il faut un buteur de la trompe.
Il n'en a qu'une à tenter après. Il la met, mais elle n'était pas facile
en même
temps.
Facile,
elle était en point, il y a du vent.
Mais il la met.
Mais je vous le disais hier, j'en étais. Enfin, j'en avais une pièce qu'il allait la mettre. Hein, parce que voilà, dans sa situation, il est sur le banc, on le fait rentrer. Voilà, coucou, je suis là. Il a fait la même chose avec Joe Marler après.
Little bitch, comment il dit, Joe Marler. Je ne sais plus comment il l'appelle.
Il l'a bien chambré, ouais.
Petite salade. Déjà, je ne sais pas ce qu'il a. Pour qu'il réagisse comme ça, Joe Marler, quand même, c'est qu'il s'est peut-être passé.
Il y a eu quelques petits mots, à mon avis, de chambrage.
Tartine à le coup. Eh bien, il s'est fait prendre à son propre jeu. Il a pris une pénalité en plus.
D'habitude, c'est les Anglais qui nous font ça.
Il était piqué au vif, Marler.
Ah ouais, puis là, rien à battre. Hein. C'est pas grave, pam, je lui mets la tartine. Bon, c'est plutôt rare sur le terrain aujourd'hui.
La tête qu'il a, et lui, tu sais que.
Donc, oui, Ramos, voilà, à Kinghorn, ce sera la discussion pour la finale, parce que Kinghorn avait fait 50% au pied en huitième, a fait 100% en quart, et là fait du 60%, et c'est, on va dire, trop peu pour un buteur de ce niveau dans des matchs comme ça. Hein. On l'attend à 80-90% pour une demi, une finale. Donc ça va être une réflexion du staff. Voilà. En même temps, Blair Kinghorn, je ne sais pas si vous avez vu les photos là sur le.
Ah, il est,
il avait bien son prénom après le match.
Wow.
On regarderait sur son Instagram. Il a le nez sur la joue un peu.
Il se l'est fait replacer, je crois, parce qu'il a fait deux photos, une avant et une après se l'est fait replacer avec un gros pansement sur le pif.
Ah, d'accord.
Ah oui, donc c'est pas sûr que.
Il a le nez en C, quoi, en fait. C'est un beau petit C.
Sympa.
Sur le dernier plaquage, hein, c'est ça, Wilfried, je crois. Il se prend.
Tu vois, sur les plaquages, les plaqueurs peuvent se faire mal aussi.
Il a pas dû bien dormir. Tu vois, il a dû bien ronfler cette nuit.
Ouais, il fallait pas être à côté de lui. Alors, Kinghorn, donc, d'un autre côté, c'est difficile aussi de s'en passer quand même, parce que quel fantastique joueur. On parle d'un jeu de chaise musicale qui consisterait à le déplacer à l'aile et du coup de mettre Malia au centre. Et de sortir le jeune Kos qui avait été énorme en quart de finale, qui hier a commis.
Sortir c'est... Malia peut-être.
Sortir Malia.
Et encore, faut le sortir parce qu'il est très bon aussi. Oui, mais c'était ce qu'ils avaient fait la semaine d'avant contre le Racing. Kinghorn.
Oui, mais tu mettrais Malia. Ouais, donc Kinghorn.
Je pense pas qu'ils
difficile
vont
de déboulonner hein. Paul Coste du centre malgré
ce
que Mola
quand même,
oui oui Mola n'a pas toujours été
il a fait du très
Paul
bon
Coste.
Et du très moins bon
oui parce qu'il est là pour calmer tout le monde avant la finale je pense
ouais.
Difficile de bouger les mecs là hein. Huitième quart demi quand vous faites une finale comme ça
Non mais à la limite c'est vrai que ça peut la question qui peut se poser c'est est-ce que tu laisses Ramos sur le banc en impact player de luxe ou est-ce que tu et Kinghorn s'il n'est pas un numéro 15 titulaire qu'est-ce que t'en fais est-ce que pareil tu le fais passer sur le banc ou est-ce qu'il vaut mieux le voir à l'aile comme sur le dernier match du top 14 où il a été excellent
Thomas Ramos a une petite revanche à prendre sur le Leinster parce que les deux dernières demi-finales là-bas Dublin il n'a pas été à la fête dans les matchs donc il peut faire beaucoup mieux et lui il a peut-être ça en tête aussi mais bon après voilà,
et là ça serait le duel du gagne terrain au pied face à James Lowe quoi
ouais. Mais c'est là où moi je pense que en fait Ramos il doit revenir un peu dans le 15, c'est que pour tout ce qui est sorti de camp, jeu au pied, occupation contre le Leinster, ce sera pas du tout le même match. Tu vas devoir beaucoup plus occuper le terrain et Ramos quand même dans ce secteur de jeu, sans compter que quand tu auras des points à prendre, faudra pas les louper et qu'il y a tout l'aspect buteur qui rentre en compte. Il me paraît assez indispensable. Donc je sais pas. Moi stratégiquement sur le profil des joueurs là, avant cette finale, je mets Ramos.
Mais d'autant que, est-ce que c'était pas aussi justifié, je crois qu'Hugo Mola en avait parlé avant le match face au Harlequins, par la physionomie de cette demi-finale. Il disait, le coach toulousain, que les Anglais avaient tendance à marquer l'essentiel de leurs essais en fin de rencontre. Et que donc, il y avait tout un intérêt à avoir des joueurs comme Julien Marchand, comme Thomas Ramos sur le banc pour être capable de tenir ce match et peut-être même de le faire basculer en fin de rencontre. Mais est-ce que ce sera le cas ? En fait, face au Leinster, il ne s'agit plus de ça maintenant. Au Leinster, il va falloir les taper et surtout ne pas les laisser prendre trop d'écart dès le début de match comme ils ont pu faire face à La Rochelle en finale l'année dernière.
Ouais, les Toulousains donc qualifiés pour la finale. On rappelle le score final, un 38-26. Ils n'avaient plus atteint le stade de la finale depuis 3 ans. Leur victoire face à La Rochelle. Cette fois-ci, pas de finale franco-française. Il faudra se mesurer donc au Leinster, vainqueur des 4 derniers affrontements qui les ont opposés à Toulouse. Est-ce qu'on peut parler de bête noire des Toulousains quand on évoque le Leinster ? On n'avait pas hésité à parler de bête noire rochelaise pour parler face au Leinster.
Bête noire toulousaine pour La Rochelle.
Voilà. Ouais.
Ils se mangent les uns les autres en fait.
Il y a plein de bêtes noires partout, mais ça dépend des adversaires. Quelle est la bête noire de l'UBB ? Ça, on verra la semaine prochaine.
Nico et Fébril.
Mais voilà, est-ce qu'il y a un complexe toulousain vis-à-vis du Leinster ou alors on rappelle que les 4 matchs se sont tous déroulés à Dublin
Je les ai tous vus. C'est vrai, mais c'était des demi-finales. Merci. C'était des demi-finales à chaque fois. Et donc, oui, le contexte, il y a un vrai avantage du terrain, du stade qui pousse derrière vous et tout. Donc, oui, on peut le dire. Là, c'est pas pareil. Je pense que les Toulousains, ils pensent qu'à ça depuis un an. Ils en ont pris 40 à chaque fois en demi en plus. Donc ils sont vraiment en revanche. Mais à l'inverse, le Leicester a perdu deux finales de suite. Hein. Donc il y a un petit traumatisme aussi. Vous imaginez une troisième finale de suite de Champions Cup perdue. La pression sur le Leicester qui met énormément de moyens hein, pour construire ses équipes et tout en Irlande. Voilà, à un moment, ça couine un peu aussi hein, s'il ne ramène pas des titres.
Ouais. Après, donc difficile de
ouais,
dire.
On peut parler de bête noire.
Mais difficile de dire s'il y a un avantage psychologique pour l'un ou pour l'autre. T'as 4 victoires à 0 d'un côté et puis t'as 2 défaites en finale de l'autre, donc voilà. Ouais. C'est
non, et puis au-delà de ça, samedi, on peut pas dire que Northampton n'a pas tenu la dragée au Leinster. Ouais. Ils ont été un peu bousculés aussi, les Leinstermen, donc t'arrives pas en fanfaronnant sur
non,
cette
finale. Non, mais de toute façon, tu fanfaronnes pas quand tu sais que tu vas affronter le Stade Toulousain quand même. Ça,
non, mais tu peux arriver avec un peu de confiance. Mais
oui, mais ça, c'est
sur
si
leur,
t'étais anglais,
sur leur principe
oui.
Mais de base, les Irlandais, ils ont été bousculés par Northampton.
Affronter le Leinster, qu'est-ce que cela inspire Antoine Dupont? On écoute tout de suite la réaction du capitaine toulousain.
Ça nous inspire qu'on est à un match de soulever un trophée, c'est pourquoi on s'entraîne quotidiennement et depuis 10 mois pour cette saison-là et plusieurs années même. Donc on sait que c'est déjà très dur d'arriver là et que là encore la dernière marche, c'est certainement la plus dure aussi avec un adversaire, comme vous l'avez dit, qu'on connaît très bien, qui est difficile à manœuvrer et qui a aussi autant envie que nous de le gagner puisque ça fait deux fois qu'il perd en finale aussi. Donc voilà, ce sera un contexte particulier auquel il faudra qu'on se prépare. On les connaît très bien, ils nous connaissent très bien, à nous de préparer le match de la meilleure des manières pour en sortir vainqueur, tout simplement.
Antoine Dupont, donc effectivement, deux équipes qui se connaissent parfaitement. C'est un peu le grand classique de cette Champions Cup. Les deux clubs les plus capés. D'un côté, 5 victoires pour le Stade Toulousain. De l'autre, 4 pour le Leinster. Donc, l'occasion d'égaliser.
Une opposition... 8e finale chacun.
Huitième finale.
Ouais, pareil, c'est le record.
Ah, t'en comptes. Une opposition qui ressemblera également fortement au dernier Irlande-France. Hein.
Oh, bah, on espère pas quand même. Mais...
Non, alors, on espère, sur le
papier.
Sur le papier avant le match.
Sur le papier.
Et sans le carton
rouge. Les deux
rouge.
Équipes, c'est encore plus flagrant côté Leinster. Mais fournissent quand même l'essentiel de. Alors maintenant, évidemment, tu me diras, Nico, qu'au niveau des lignes arrières, hein, quand même, l'UBB.
Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit.
Je viens.
Mais c'est bien. C'est bien que tu le remarques. C'est bien que tu le remarques.
Voilà. Bah après, Wilfried pourra nous dire aussi que La Rochelle fournit quand même quelques forces vives également à l'équipe de France. Mais bon, quand on est objectif, Winnie, l'essentiel de l'équipe de France, c'est le Stade Toulousain.
Baye Movacal, Deguerri, Flamand, Meafou, Cross, Roumat, sans compter Dupont de Tamac, le bel Écosse. Qui eux, allez, alors, pour les deux là, sont hors groupe destination. Même le Bel qui n'était pas retenu. Paul Coste, il était peut-être encore un peu
non,
jeune.
Non, le Bel, il a joué, il était forfait.
Non, il était destination là de cette année.
Il était forfait. Il était dans le groupe. Il devait jouer contre.
Ouais. Il n'a pas joué en Écosse. C'est qui
Vous me faites douter là, les gars. Mathis Le Bel, il me semble que bon, bah écoutez, en tout cas. Si on prend, on enlève Dupont de Tamac et Coste, on a Ramos encore et Marchand sur le banc, enfin là, rien que la liste que je vous donne.
Non, il est forfait de dernière minute à Lille. Je dis des bêtises, n'importe quoi. Il joue à Lille contre l'Italie.
Ah, il joue à Lille. Ah, mais oui, puisque vous le voyez même en zone mixte après, le pauvre, il a été envoyé au casse-pipe, le pauvre. Mais de l'autre côté.
Au feu roulant des questions.
Ouais, des journalistes après ce nul terrible. Bon. Et par contre, du côté du Leinster, c'est aussi impressionnant parce que si on prend. Le 15 de départ samedi face à Northampton et qu'on prend le groupe de l'Irlande pour les Six Nations cette année, tu prends tout le pack à l'exception du deuxième ligne Ross Molony, tout le pack était du groupe de l'Irlande et pareil derrière on a le demi-mêlée de Jamieson Gibson Park, on a les ailiers James Lowe et Jordan Larmour, on a Robbie Henshaw au centre, on a l'arrière Siren Frawley, enfin bref. En fait, t'as à peu près tout le 15 du trèfle qui était présent samedi et qui, pour la plupart, ont commencé. Donc, bon, ça va effectivement être un remake d'un choc France-Irlande. Je sais pas vous, messieurs, mais ça y ressemble quand même un petit peu.
Alors, est-ce que... Voilà, est-ce que j'ai trouvé un poil moins dominant, le Leinster.
Ouais, je suis d'accord.
Un poil cette un saison peu plus frontal dans le jeu. Alors, ils ont récupéré Nina Beur, hein, ils ont plus Lancaster, ils ont récupéré Nina Beur, le sélectionneur sud-africain. Est-ce que ça a un rapport? Ils se sont fait bouger un peu en mêlée contre Northampton.
Ouais.
J'ai trouvé. Et puis, bah, voilà, ils menaient 23, ils gagnent 20-17, ça a été chaud jusqu'à la fin. Mais c'est pareil, Northampton, c'est comme l'Harlequins. Ils arrivent avec un moins d'expérience, ils font trop de fautes en première période, ils se font distancer et voilà, c'est à la fin ils ont beaucoup de regrets. Mais est-ce que c'est le même Leinster? Je suis pas sûr. Bon, en finale, après, voilà, c'est, on dit, je dis, Toulouse dit ça suffit de perdre contre Leinster, mais Leinster va dire ça suffit qu'on perde en finale aussi. Donc, c'est ça qui va être génial. Dans l'enjeu pour les deux, là, il peut y avoir un peu de tension. Hier, on a vu quelques, enfin, quelques claques, quelques, beaucoup d'accrochages, hein, Christophe.
Ça s'est attrapé, hein, en première mi-temps.
Ça s'est attrapé et tout. Je pense alors, que alors, vous, là, ça
alors,
peut être.
Vous avez vu, mais la réalisation cache désormais les bagarres. Quoi,
mais d'ailleurs, il me semble que Joe Marler, je ne sais pas si on voit.
Je vois rien.
On les voit à la fin un peu en face à face, tous les deux très tôt.
Mais
je crois qu'ils ne nous ont pas montré les images au moment vraiment où ça se
passe. Il est derrière, paf.
Tu l'as vu, Nico, toi ? Moi, j'ai loupé le truc, mais
moi,
j'ai pas vu.
Bon, ceci dit, pourquoi ça peut être un choix.
Non, moi,
par exemple, sur ce point-là, je ne comprends pas les ralentis quand il y en a un qui se fait les ligaments croisés. Ça, par contre,
Une nuquette, c'est pas pareil. Une nuquette, on veut l'avoir.
J'ai envie de dire, dans ce cas, concentrez-vous sur ne nous montrez pas les images des blessures, c'est écœurant et franchement, on n'a pas besoin de le voir.
Ah ouais. Ah, Winnie, je pense
à un truc aussi.
Je pense à un truc. Quand King Horn loupe un coup de pied, il montre Ramos derrière.
Ouais,
ça, je trouve ça nullissime.
Deux fois.
Ouais.
Deux fois.
Ouais.
Et puis, il y a une
Il
y a un traitement différent selon les sports. Je sais pas. Les images terribles des chutes sur le Tour du Pays-Bas cycliste où on voit les mecs à l'agonie. On les voit vraiment très mal. Et la réalisation télé vraiment se focalise là-dessus.
Moi,
alors qu'en rugby, désormais, maintenant, on est, il faudrait aussi uniformiser un peu les réalisations selon.
Mais surtout, quel intérêt pour les téléspectateurs d'aller regarder des ralentis d'un genou qui tourne.
Mais en revanche,
par
une petite bagarre, là, tu vas pas nous prouver.
Oh, oui. Mais c'est même plus des bagarres en plus, ils se tirent le maillot maintenant.
Ils
se tirent la barbichette, c'est tout.
Nul.
C'est nul. Le Leinster, donc, qui, contrairement à ses derniers matchs, on en a déjà un petit peu parlé, n'a pas marché complètement sur la tête de son adversaire anglais. En tout cas, on l'a pas vu à la télé, puisqu'ils nous ont encore caché ça. Northampton, donc battu de seulement 3 points, 20 à 17, succès minimal, qui a inspiré cette longue réflexion à Hugo Mola, qu'on va écouter tout de suite.
Ce qui est clair, c'est que les demi-finales sont des matchs pour le top 14 ou la Champions Cup, qui sont des matchs toujours très particuliers. Souvent, on présage de victoires faciles des uns et des autres, et on se rend compte que les matchs sont âpres, tenus, serrés, et qu'ils n'ont pas dérogé à la règle. Northampton fait une première mi-temps compliquée, avec 7 ou 8 turnovers sur la première mi-temps, beaucoup de ballons rendus à leur adversaire, et on sait que quand le Leinster a la possession, et en plus vous leur donnez la possibilité d'avoir de la matière, ils sont dangereux. Malgré ça, Northampton meurt à peu de points. Nous, on a enfin passé notre plafond de verre, même si on l'avait juste rompu il y a 3 ans, mais force est de reconnaître qu'on est très exigeant et qu'on avait envie de refaire une finale. Et donc c'est un tout autre match en Angleterre contre des Irlandais qui sont maîtres en la matière, mais que certains arrivent à bousculer. La Rochelle est un très bon exemple. Donc il faudra qu'on allie peut-être la fin de match de Northampton, un peu de La Rochelle et surtout beaucoup de Toulouse.
Un peu de La Rochelle. Il va s'inspirer de La Rochelle, Mola. On attend quand même avec impatience le petit coup de fil à Ronan. Dis donc, Ronan, comment on fait pour battre
Si vous êtes sur la fucking messagerie de Ronan O'Gara.
Tu veux pas lui poser à Hugo Mola la question en conf cette semaine, Wilfried? Est-ce que vous allez appeler Hugo?
C'est
est-ce
comme
que vous allez appeler
avec,
Ronan?
Ça avec Curios à un moment. Tu jouais bien là.
Je suis parlé de Galtier une époque.
Oui,
quand Galtier est arrivé en équipe de France. Il me disait, mais t'as pas fini de parler de Galtier?
Arrête de faire bien.
Une finale qui aura donc lieu dans un petit peu moins de 3 semaines maintenant, dans le stade de Tottenham à Londres, sans équipe anglaise. C'est la 4e année consécutive. Ça commence à faire beaucoup pour les Brits, même si leurs équipes n'ont pas démérité, loin de là en demi-finale. Alors,
ouais, et puis ils ont moins de moyens. Enfin,
ils ont moins de moyens, et puis ils jouent à l'extérieur, les deux. Les deux jouent à l'extérieur.
Ouais, puis, non, mais il y a un journaliste anglais qui en parlait. Voir le Queens, quoi. Il dit, c'est vrai qu'ils ont, ils ont la moitié. Alors, le salary cap.
Autour de 6 millions, je crois.
6,5, ouais.
Un truc comme ça.
10,
un peu plus.
Oui, 10 et quelques. Mm. Vous vous rendez compte? Ouais. Pour constituer les équipes. Ouais. Donc bravo au rugby anglais, et on en a déjà parlé.
Ouais, hein, finalement, certains disent ouais, c'est ils sont pas là toujours, 4e année consécutive, mais franchement, ils ont pas démérité en demi-finale.
La moitié du dernier carré, c'était deux clubs anglais.
Donc on a besoin.
Ils ont traversé le désert, donc.
On a besoin du rugby anglais, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de forces dominantes dans ce sport.
Mais sinon, on s'engueule avec qui sur le terrain?
Ouais, en plus.
Quand on n'a pas les
Le rugby produit, il est top.
Ah ouais. derrière le coup, ouais. C'est magnifique, mmh. Hein, j'adore. Hein. J'adore les voir jouer. Bon, bref, l'Angleterre n'est pas encore en finale, mais elle est quand même de retour. Même l'absence de club anglais aurait pu inquiéter les organisateurs de la finale. A priori, ça ne devrait pas être le cas. Je pense que les places vont trouver preneur, car c'est une immense fête du rugby de voir s'affronter le Stade et le Leinster. D'ici là, les Toulousains auront deux matchs de top 14 à disputer. Alors que faire ? Mola doit-il faire tourner, quitte à risquer sa deuxième place au championnat, qualificatif directement pour les demi-finales. Ils affronteront notamment la semaine prochaine le Stade français, qui est leader du championnat, Ernest Vallon. L'an dernier, on s'en souvient, ça avait fait une petite polémique. Parce que Mola avait envoyé l'équipe BIS à Paris, qui avait été battue, pas de beaucoup, mais qui avait été battue. Mmh. Est-ce qu'il va faire tourner ? Est-ce qu'on a une idée là-dessus pour,
bah alors là, Wilfried, tu sais mieux que nous. Hein.
Je pense pas trop.
Ouais.
Parce que faut assurer complètement.
À Vallon.
Non,
ouais.
Mais c'est le leader qui vient, Ernest Vallon. Ouais. Ils ont pas pour habitude de balancer les matchs à domicile, les Toulousains.
Et puis d'autant qu'il faut quand même
verrouiller la place en demi direct. Les Toulousains, ils ont 7 points d'avance sur l'UBB.
Ouais. 65 Toulouse, 58 UBB.
L'UBB reçoit La Rochelle. Il y a encore il reste 4 matchs, les amis, c'est ça ?
On est à la 23e, 4 matchs.
Voilà, ce serait verrouillé quand même fortement la qualif direct. Et puis peut-être qu'ensuite, ils vont à Montpellier. Là, ils feront largement tourner pour mettre. Bon, peut-être qu'il y aura certains qui seront un peu ménagés dimanche soir face au Stade français. Mais je pense qu'ils mettront une équipe compétitive et qu'ils relâcheront après à Montpellier.
Et puis d'autant que Toulouse est allé s'incliner au Stade français à l'aller. Donc il s'agirait pas de perdre à l'air court.
Pas deux fois, c'est pas possible.
Peut-être pas, surtout pas à la maison.
Ouais. Et puis ils peuvent prendre la place de leader.
Bah oui, puisqu'ils sont ils sont à 2 points, donc c'est faisable.
Ouais. En tout cas, ce sera un match intéressant, ce sera dimanche soir. Et puis l'autre match intéressant, là, c'est la place de Dauphin, évidemment, hein, Nico. Hein, Bordeaux-Bègles face à La Rochelle, samedi soir, 21h05.
Il vaut cher, celui-là aussi.
Ça va être chouette, ouais. Ça va être chouette.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, il vaut cher.
Il vaut très cher.
Il met bien la pression quand même, là.
Ouais.
Mais carrément, mais tout peut être renversé sur le bas du top 6. Quand tu prends Bordeaux-Bègles, 58 points, Racing 92, 57, La Rochelle 56, Toulon 55. Tout.
Et Perpignan 53.
Perpignan, bon, oui, non, mais alors là, ce serait dingue. En plus, l'USAP pourrait terminer.
L'USAP qui affronte Clermont, qui reçoit Clermont samedi après-midi.
Ouais. Donc largement manœuvrable de leur côté, a priori, en tout cas sur le papier. Et alors que tu as un choc UBB-La Rochelle qui va être déterminant aussi dans le top 6. Enfin, là, c'est un gros week-end de top 14 quand même.
Gros week-end dont il faudra tirer des enseignements. Et on les tirera la semaine prochaine, à la même heure évidemment, entre les poteaux pour voir quel pourrait être le dauphin. Ou
il est pour qui, Nico ? Pour Bordeaux ou La Rochelle ?
Mais c'est toujours été neutre, hein. Je vois pas pourquoi vous.
Attends, Nico, il y a un truc qui m'échappe là. Toi aussi, t'es Rochelais ?
Non, mais bon, j'ai suivi un peu La Rochelle. D'ailleurs, j'ai croisé Ronan O'Gara sur un terrain de padel, figurez-vous, La Rochelle. Ouais.
Ah,
très bon joueur de padel, avec Rémi Thalès, il faisait équipe.
Bah, tiens.
D'accord.
T'as joué très bien en padel.
Très belle anecdote.
Ah voilà. Dis donc. Non, il y en a qui sont, installés dans la société rochelaise.
Oh, ouais, on est des reporters de terrain, nous.
Non, mais tous les mecs jouent au paddle, à Toulouse c'est pareil. Dis donc, faudrait presque faire un podcast sur le paddle.
Ah, mais dis donc, Nico, puisque t'as pas grand chose à faire, tu pourrais le faire peut-être.
Oui, alors on peut faire un petit teasing. Il y a bien évidemment un podcast 100% paddle, Viva Paddle, disponible sur rmc.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.
Et surtout, cadeau, allez regarder le Twitter d'RMC Sport parce que les bandes annonces produites par Nico, où on le voit sur un terrain de paddle, ça vaut.
Il y a un vrai savoir-faire, mais je me suis inspiré du taulier, Christophe Cessieux, de toutes ces bandes annonce, tout ça. Je m'inspire des meilleurs.
Si vous l'avez pas vu, allez-y. Franchement, ça vaut un prix.
Et ben, on va regarder ça. Milo à la bouche. Voyez, je vais aller regarder ça.
Il y a des qualités d'acteur indéniables.
Il est très bon. Merci les garçons et la fille. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle émission d'Entre les poteaux. Bonne semaine. Ciao.